Bienvenue à tout le monde ici dans ces séminaires exceptionnels organisés par Mme Jalil Azbeh et moi-même. Je suis le second couteau de l'opération. C'est elle qui est l'animatrice principale, mais le sujet est de très grand intérêt. Je dirais, on a parlé d'une histoire étrangère de la France, je pense que le terme est mauvais. Je pense que depuis la fin du XVIIIe siècle, le destin de la France se construit sur deux dimensions, géographiques et culturelles. La première, c'est la dimension allemande, et la seconde, c'est la dimension arabe. J'avais trouvé une scène symbolique il y a très longtemps sur le sujet, c'était en 1797 en Italie, le général Bonaparte reçoit le général de Saxe pour parler des pourparlers de paix avec l'Empire d'Autriche et le Saint-Empire germanique. Et il est question à ce moment-là de l'annexion de la rive gauche du Rhin par la France. Et dans ces entretiens, le jeune Bonaparte, enfin de ceux qui sont après le même âge, ils ont moins de 30 ans, ces généraux de la Révolution, lui entretient de son projet de faire une expédition en Égypte. Et ce qui aura lieu l'année suivante, et de Saxe participera à l'expédition, c'est celui qui fera la conquête de la Haute-Égypte. Et vous voyez, c'est à partir de ce moment-là, l'histoire de France, d'un côté, s'incarne, s'exprime vers l'Allemagne, et de l'autre côté, s'exprime sur un espace qui, au XIXe siècle, est défini comme arabe, 1830, la conquête de l'Algérie, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, deux dates qui se cumulent ces jours-ci, si vous voulez. D'un côté, nous avons le plan, entre guillemets, de paix américain qui a été divulgué. Et aujourd'hui, nous avons la sortie britannique de l'Europe. Alors il est évident que derrière le mot Europe, c'est l'Allemagne, la France ne pense l'Europe qu'à travers l'Allemagne. Le projet européen de la France a été d'abord un projet de neutraliser l'Allemagne pour éviter de reprendre le cycle de guerre qui avait commencé en 1870. Et de l'autre côté, islam, pour la France, c'est le mot continuateur ou suivant de ce qu'on appelait arabe au XIXe siècle. Et on peut montrer combien, depuis deux siècles, l'histoire de la France se balance constamment entre ces deux pôles, avec constamment des allers-retours ou des rencontres. Par exemple, en 1944, au palais du gouvernement à Alger, vous avez Jean Monnet qui parle de réforme européenne, enfin de projet européen, et à côté de lui, le général Catroux qui parle de réformes musulmanes. Donc, là encore, ces dimensions se percutent. Or, les expansions européennes et françaises ont créé évidemment une présence arabe et musulmane dans la société française. C'est la logique, vous ne pouvez pas partir chez les autres sans que les autres viennent chez vous, c'est irrémédiablement lié l'un à l'autre, et la présence physique en métropole des musulmans et des arabes, elle est liée à la grande épreuve qui est la Grande Guerre, et sur laquelle à la fois les armées coloniales, enfin l'armée d'Afrique, composée très très largement de musulmans, se bat avec les autres Français. D'ailleurs, ça changera la langue française. Des tas de mots de l'argot français viennent de l'armée d'Afrique. Et le flouze, le kleps, etc., ça vient de l'arrivée de l'armée d'Afrique en métropole, compte tenu qu'il y avait déjà eu des zouaves en 1870, mais on oublie, sauf sur le pont de l'Alma, qui est la trace du passage des zouaves en 1870. Et donc, une composante de la société française est sortie de la grande épreuve. Et cette composante, nous avons toujours un mal complexe à le définir, compte tenu que d'un côté, on veut les signifier par une appartenance religieuse ou d'origine religieuse, donc terme musulman, mais d'autre côté, on rappelle qu'ils sont français. D'où l'alternance constante, à partir de l'époque coloniale, entre les musulmans français et les français musulmans. Ce qui, là aussi, pose toujours problème, ne serait-ce aussi que cela enferme les gens dans des étiquettes, voire ça les assigne à des positions. Alors, de cette histoire des musulmans français ou des français musulmans, nous ne connaissons bien finalement aujourd'hui que la première partie, paradoxalement, c'est-à-dire en gros celle de la période coloniale, celle qui irait de 1914 à 1962, c'est en particulier le livre de Mme Jalil Lazbé qui est à côté sur la politique musulmane de la France, qui étudie entre autres cette création de cette France musulmane à travers la Troisième République et la Quatrième, voire même la Cinquième, puisque l'acte terminal est 1962. Et en 1962, en quelque sorte, les musulmans disparaissent de l'optique française, puisque d'abord le statut musulman disparaît du droit français par une simple circulaire administrative de juillet 1962. Avant, la République reconnaissait le droit musulman comme l'un des droits pratiqués dans l'espace, y compris métropolitain. D'autre part, parce qu'il y a le deuil de l'Algérie, et ce deuil de l'Algérie fait qu'on ne va pas parler d'islam de France ou de français musulmans pendant une vingtaine d'années, ce qui ne veut pas dire que les intéressés ne sont pas là, au contraire. C'est le moment des grandes migrations de travail dans le cadre de la dernière décennie des 30 glorieuses. C'est le moment où les gens qui soient entre guillemets de première génération passent à la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. Il y en a certains qui sont déjà à la cinquième. Ce qui est un peu compliqué pour assigner toujours les gens à une identité. Et dans cette mesure-là, il faut attendre 1982 pour qu'on découvre qu'il y a des musulmans en France. C'est M. Pierre Mauroy qui découvre qu'il y a des musulmans à Boulogne-Billancourt. Et ça fait un choc, je ne sais pas si vous vous rappelez à ce moment-là, la déclaration de M. Pierre Mauroy. Et à ce moment-là, les choses vont changer. Or, 1982, pourquoi on est brusquement sensible à cette présence musulmane, y compris chez les ouvriers de la Régie Renault, puisque c'est encore l'époque de la Régie Renault, c'est parce qu'il y a eu la révolution islamique de 1979. Et cette révolution islamique, l'onde de choc, évidemment, elle parcourt tout le Moyen-Orient, etc., mais elle parcourt aussi les sociétés européennes dans la mesure où en Europe même, pas seulement en France, vous avez d'importantes populations musulmanes. Ce qui explique le choix que nous avons pris ici comme date de départ de 1979. 1979 qui, dans la réflexion historique aujourd'hui, est considéré peut-être plus important que 1989. Si vous êtes dans l'axe allemand européen, vous voyez la chute du mur de Berlin. Si vous êtes dans l'axe arabe musulman, c'est 1979, ce n'est pas 1989, puisque c'est là où la question de l'islam, dans toute sa puissance, dans toute sa variété, dans toutes ses ambiguïtés, dans toutes ses contradictions et dans tous les discours absurdes qui sont tenus dessus, va se poser aux sociétés européennes, mais aussi occidentales, puisque la situation avec d'autres axes existe aussi en Amérique d'une. Donc, le sujet de ce séminaire que nous allons tenir jusqu'à la fin juin, une fois par mois, sauf en juin, il y aura deux jours de séance. Vous aurez le droit donc à deux pour le prix d'une, c'est-à-dire quatre séances, vous vous rendez compte. Donc, ce séminaire va interroger, mais dans un ordre dispersé et en fonction des problématiques du temps et des uns et des autres, cette question des Français musulmans dans les répercussions de tout ce qui se passe dans les sociétés musulmanes et arabes depuis 1979. Alors, c'est aussi pour souligner que finalement, les historiens ont fait à peu près un boulot correct jusqu'à 1962, mais que depuis 1962, nous n'avons rien sur la question. Alors, nous avons des enquêtes de sociologie, beaucoup d'enquêtes de politologie et beaucoup d'injures entre politologues, ce qui semble devenu d'ailleurs un sport national, ou professionnel en tout cas. Mais nous n'avons pas une bonne histoire de tout cela depuis 1962. Alors voilà donc ce discours introductif qui était pour l'ensemble du séminaire et je passe maintenant la parole à ma collègue pour la suite des opérations.
Bien, merci Henri. Je poursuis donc cette introduction. Ben, merci d'être là, à vous tous. Merci aux intervenants qui ont accepté d'intervenir dans ce séminaire et de nous parler de leurs travaux récents et anciens. Ce séminaire s'inscrit bien évidemment dans la devise du Collège de France qui est la recherche en train de se faire. Il est parrainé par la chaire du professeur Henri Laurence, ici présent, donc chaire, qui est la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Il s'inscrit également, non seulement dans la devise, mais également dans une tradition du collège qui est très ancienne, une tradition de chaire également, puisque ces chaires ont commencé avec Alfred Le Châtelier, 1911. Ça va se poursuivre avec Louis Massignon, Robert Montagne, Jacques Berck, Henri Laurence qui a pris la suite. La particularité de ces chaires, c'est qu'elles ont toutes travaillé sur l'histoire du temps présent, bien évidemment leur temps présent, à la fois sur les sociétés musulmanes, sur l'islam et sur l'impact du choc colonial qui se faisait déjà sentir à leur époque et sur l'impact de la société moderne sur les populations musulmanes. Alors, on reprend ici, pas totalement, ni dans leur intégralité, une problématique qui avait déjà commencé à voir le jour en 1947 avec Robert Montagne, qui est nommé à la chaire et donc l'enquête qu'il va lancer, qui est nommée au Collège de France, donc en 1948 officiellement, et qui va lancer dans la foulée une enquête qu'on peut qualifier de globale, voire de totale. Une enquête à laquelle va participer très activement Jacques Berck et dont Jacques Berck va utiliser les résultats par la suite quand il aura sa chaire, donc la succession de Robert Montagne en 56. Donc, cette enquête globale avait pour objectif, et je crois qu'en Occident, c'est la première enquête qui va étudier les migrations et les migrations à partir du pays de départ. Robert Montagne s'intéressant aux sociétés musulmanes et maghrébine en particulier, il va lancer cette enquête, en fait, qui va être une double enquête, et je dis totale, voire globale, parce qu'elle va s'intéresser à la fois à l'impact de la société moderne, c'est-à-dire européenne, sur les sociétés musulmanes, à la fois dans les trois pays du Maghreb, et sur les populations musulmanes émigrer en France, donc l'impact sur les populations musulmanes présentes en métropole. L'originalité de l'enquête, c'est qu'elle va prendre pour point de départ de l'enquête les villages et les douars à partir desquels les migrants partent. Et elle va s'intéresser à la fois à l'émigration interne, donc à ce qu'on appelle aujourd'hui l'exode rural, et l'installation de la population, de populations non urbaines dans les nouvelles villes ou métropoles modernes des pays d'Afrique du Nord. Et de l'autre côté, la même chose, donc dans les migrations transnationales, c'est-à-dire le départ des villages des douars et des tribus, parce que on va faire une typologie des tribus également, et l'arrivée en France, mais en étudiant parallèlement la répartition à la fois à l'intérieur des usines, des manufactures, des ports, à l'intérieur des trois pays du Maghreb et parallèlement en France également, c'est-à-dire que l'enquête va concerner à la fois l'installation dans les villes françaises, dans les usines, enfin les usines qui recrutent, les manufactures, les travaux publics, etc. Donc c'est une enquête sociologique, mais qui prend dans sa totalité, dans sa globalité, à la fois ce qui se passe dans les pays du Maghreb et ce qui se passe et ce qui se passe en France également pour ces populations musulmanes qui entrent en contact avec à la fois les sociétés européennes modernes et surtout avec l'économie moderne. L'un des objectifs au-delà, je veux dire, des calculs politiques et stratégiques de gestion, etc., de populations non européennes, aussi bien en France qu'à l'intérieur du Maghreb, et l'impact sur la religiosité, donc sur la religiosité des migrants, sur l'impact sur leurs pratiques, l'impact également sur la religion elle-même, c'est-à-dire sur l'islam. Donc notre séminaire s'inscrit dans... Cette enquête n'a pas été publiée entièrement, juste une frange a été publiée concernant le Maroc, tout simplement, qui a été rééditée en 2016-2017 par le centre Jacques Berg. Donc pour en arriver à notre séminaire ambitionne de faire à peu près la même chose, sauf que nous parlons plus de migrants, mais nous parlons de population musulmane française aujourd'hui installée en France, comme on parlait à l'époque de la population musulmane algérienne en Algérie, qui était encore une fois département français. La différence, une continuité d'un travail qui avait déjà commencé et qu'on est en train de reprendre, parce que ce travail n'a jamais été complété. Comme je le disais tout à l'heure, Jacques Berg s'en est inspiré pour un certain nombre de ses travaux, mais ça n'a jamais été publié ni reconstitué. Cette enquête, je peux vous l'assurer, puisque les archives en témoignent, existe bel et bien avec tous les chiffres dont on a besoin pour reconstituer cette enquête et avoir une continuité historique. Donc, je ne reviens pas sur l'argumentaire, je reviendrai simplement sur l'impact de la religiosité et sur les premières conclusions de Robert Manton. C'est effectivement le contact avec la société européenne va avoir une influence, à la fois une influence qui ne lui paraissait pas cohérente, parce que d'un côté, on va avoir une partie ou une frange de la population musulmane présente aussi bien en France que dans les pays du Maghreb qui va se détacher et qui va suivre l'exemple des Européens avec lesquels elle est en contact et donc se détacher des pratiques religieuses ou tout simplement introduire un certain nombre de pratiques qui n'existaient pas ou en tout cas de rendre licite un certain nombre de pratiques qui n'existaient pas dans les villages ou en tout cas dans la pratique traditionnelle. Et de l'autre côté, on va avoir une radicalisation une sorte d'arc-boutage sur l'islam au vu de ce qui se passait, encore une fois, puisqu'on est dans le cadre d'interaction, qui se passait, encore une fois, à l'époque. C'est-à-dire que déjà dans les années 50, à la fin des années 40 et au début des années 50, on avait commencé à repérer l'influence d'un certain nombre de courants idéologiques qui avaient vu le jour 20 ou 30 ans auparavant au Moyen-Orient, commençaient à avoir un impact et une certaine modernisation, je mets ça entre guillemets, à la fois sur les sociétés du Maghreb et sur la population musulmane présente en France. Je parle des deux courants principaux qui sont les frères musulmans et les wahhabites, et le wahhabisme, pardon. Donc l'argumentaire tel qu'on l'a présenté par de 1979 à 2019, quel a été cet impact tout au long entre les années 50 et 79, encore une fois, on n'a pas de quoi le mesurer. La simple chose, c'est qu'il y avait probablement un travail souterrain qui s'est fait, ou en tout cas quelque chose qui travaillait les sociétés, et que la révolution iranienne a mis au jour. Je prends juste le cas d'une petite ville au moment, pour faire le lien entre le Maghreb et la France, encore une fois. Et l'exemple est le mien, et un exemple vivant qui a assisté à quelque chose qui se passait en 1979, au lendemain de la révolution iranienne. Enfant, je fréquentais un collège, je rentrais en sixième, etc. Donc du jour au lendemain, il y a eu un fascicule qui a circulé dans la ville. C'était une petite ville du Maroc, entre Casablanca et Marrakech, qui a circulé au moins de 3 jours. Du jour au lendemain, matin, je me suis réveillée, je suis allée au collège. C'était un tout petit collège de quelques centaines d'élèves. Du jour au lendemain, toutes les têtes des jeunes filles étaient voilées. Que s'était-il passé ? Absolument rien de particulier en dehors de ce fascicule qui a circulé moins d'une semaine, quelques jours comme ça. Simplement, je donne l'exemple pour dire qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur dans cette petite ville qui était paisible, qui était moderne, enfin, voilà, à la fois moderne et traditionnelle, enfin, pratiquement, on était resté 5 jeunes filles, enfin, 5 enfants sans voile. 3 ans plus tard, le voile avait en grande partie disparu des têtes, puisque je l'avais quitté à la fin, enfin, à l'été 80, j'avais quitté la ville. L'été 83, j'y retournais. Une partie des jeunes filles que je connaissais, enfin qui étaient mes camarades de collège, n'avaient plus le voile. D'autres l'ont effectivement gardé. Et la radicalisation a pris chez certains, mais pas chez d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas eu de propagande que la radicalisation, comme on en parle aujourd'hui, peut se faire simplement de manière auto-suggestive. Voilà un des exemples. 79-80, c'est le début des attentats en France. Les premières concernées, attentats islamistes, bien entendu, mais vous aviez également l'autre phénomène qui se développe, le phénomène du racisme, avec le groupe Charles Martel, qui va, là, pour le coup, dans les années 80, perpétrer plus d'attentats en France que les islamistes. Donc, l'axe principal est la question des femmes. Donc, tout de suite, on va commencer à radicaliser les femmes en priorité. les cibles dont la population musulmane présente dans les années 80, des islamistes, encore une fois, j'utilise les termes avec plein de guillemets parce qu'il faudrait encore une fois dire de quels islamistes ou de quels salafistes il s'agit. La radicalisation, ou en tout cas la politisation dans le cadre idéologique religieux, se fait par les femmes. Et c'est la particularité dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on va commencer par recruter des jeunes filles nées françaises, mais d'ascendance algérienne, qui vont commencer par être recrutées en premier. Voilà pour le cadre 79. Si on en revient à 2000, et je vais terminer très rapidement parce que je suis très bavarde et que j'ai pris trop de temps pour moi, je vous renvoie à l'argumentaire qui est en ligne pour l'ensemble des questions et des axes de recherche. En tout cas, l'axe féminin me paraît un des axes les plus importants. Si je reviens à 2019, pourquoi 2019? Je crois que vous avez tous vu ce mois de janvier à montrer, en tout cas à fait parler on a parlé de plusieurs travaux et plusieurs livres qui ont été publiés. Nous l'avons pris comme point de rupture, en tout cas pour moi, c'est un point de rupture dans le sens où ces récents travaux qui viennent d'être publiés, évidemment, ont leur point aveugle, à mon avis, cette année constitue un point de rupture dans l'approche qu'on a de la question musulmane en France, dans la mesure où on est déjà rentré dans une autre phase. Et si on veut en avoir la certitude, c'est de faire attention, enfin c'est de parler d'une petite ville qui pourrait être prise comme exemple, et de beaucoup de petites villes françaises qui montrent une recomposition du champ religieux en France. C'est-à-dire qu'on est passé de cette idée d'une communauté ou d'une oumma musulmane en France à quelque chose d'autre qui serait ethnico-religieux, c'est-à-dire une recomposition à la fois identitaire et religieuse. Vous prenez la ville du Havre, dont sûrement on va entendre parler beaucoup les prochains mois. Les mosquées sont devenues des mosquées, au lieu d'être salafistes ou islamistes, ce qu'elles ont été dans la dernière décennie, ce sont aujourd'hui des mosquées. Vous avez une mosquée marocaine, vous avez une mosquée mauritanienne, vous avez une mosquée algérienne, une mosquée turque, etc. Donc voilà le point de rupture, et on est en train de basculer dans quelque chose d'autre. Et je cède la parole à Maître Patrick Baudouin, à qui j'ai pris un temps très précieux et qui va nous parler de la situation actuelle de cette population qui n'est presque plus aujourd'hui. Je vous remercie tous.
Merci beaucoup. Non, je vous en veux absolument pas du temps de parole, il n'y a pas de problème, je pense qu'il m'en reste suffisamment. Je tenais d'abord à remercier le professeur Laurence et madame Jalila Zbaï de m'avoir convié devant et dans cette institution prestigieuse. Il se trouve que je suis intervenu dans de nombreux lieux, j'ai pris parole dans de nombreux endroits, mais c'est la première fois que j'interviens ici au Collège de France, et c'est avec une certaine fierté et de la reconnaissance pour cette invitation. Voilà, je tenais à faire cette observation. C'est un lieu qui m'a toujours impressionné, donc je suis heureux d'y faire un passage aujourd'hui. Je vais donc aborder par un prisme, après les exposés préalables qui viennent d'être faits, un prisme bien particulier qui est le sujet des français, arabe ou musulman, qui se trouve depuis un certain nombre d'années avoir quitté le territoire français pour rejoindre ce qu'on appelle la zone syro-irakienne. Alors, je ferai juste une petite observation avant d'en venir vraiment dans le sujet lui-même. On va parler des rapports de la France, parce que je crois que c'est quand même un peu le thème global, d'ailleurs, du séminaire de la France, donc avec ce sujet de ressortissants français qui se sont trouvés et qui se trouvent encore dans la zone syro-irakienne. Mais cette situation, on la retrouve pour des ressortissants de nombreux autres pays, comme vous le savez, aussi bien des pays européens, des pays africains, des pays asiatiques, des pays d'Amérique, puisque beaucoup de ressortissants de ces divers pays sont partis rejoindre une zone qu'on qualifiera, pour simplifier, de djihad. Je vais essayer de donner un tout petit élément de contexte historique pour bien replacer l'État islamique et puis ses groupes djihadistes divers, parce qu'il n'y a pas que l'État islamique. Ensuite, j'aborderai deux sujets. L'un qui est le sujet principal et que j'aborderai en second, qui est celui donc des Français qui se trouvent actuellement soit condamnés à mort, soit menacés de l'être en Irak. Et j'aborderai aussi avant, parce que je crois que ça fait partie du contexte global, la situation dans les camps du nord-est syrien, avec là des familles, il y a des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants. Et je m'attacherai un peu à la situation des enfants dans ces camps du nord-est syrien. Alors, quelques éléments de contexte, mais là extrêmement rapides. L'État islamique, la création ou la volonté de créer cet État, ça remonte à 2006. La proclamation du califat, c'est-à-dire d'un État islamique créé, c'était le 29 juin 2014. Vous connaissez ce régime, on n'est pas là pour le décrire. Instauration de la charia, volonté d'un État purement islamique, inspiré du salafisme djihadiste, combat mené contre cet État islamique par un certain nombre de forces de coalition, reprise de Mossoul, donc en Irak, en juillet 2017, et l'État islamique va perdre ses derniers territoires irakiens à la fin de l'année 2017. Conservera encore à ce moment-là une partie d'influence en Syrie. Raqqa est tombée en octobre 2017, mais la chute vraiment de l'État islamique sur l'État syrien, enfin sur le territoire syrien, la perte de tous les territoires, se situe au début de l'année 2019, c'est-à-dire il y a un an aujourd'hui, à peu près en février-mars 2019. Voilà la présentation de départ purement factuelle, historique. À la suite de la chute de l'État islamique, les combattants de cet État et leurs familles se sont trouvés, pour beaucoup d'entre eux ou d'entre elles, incarcérés dans des camps situés dans le nord-est syrien. Alors, ce sont des camps, il y en a trois principaux, Aloj, Roj et Ayn Issa. Il est difficile de dire combien de personnes se trouvent exactement détenues dans ces camps. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des ressortissants qui appartiennent à peu près à 80 États, dont vous voyez qu'il n'y a pas que la France qui est concernée par le problème. Il y aurait quand même 1300 ressortissants français qui seraient à peu près, qui seraient détenus dans ces camps. Et parmi ces ressortissants français, il y aurait à peu près 300 enfants, soit qui étaient nés avant le départ des parents qui ont quitté le territoire français pour aller donc en zone syro-irakienne, soit qui sont nés sur place, puisque la majorité de ces enfants se trouvent âgés de moins de 5 ans. Alors, sur la situation dans les camps donc du nord-est syrien, ce sont des personnes qui sont détenues maintenant depuis près d'une année, pas loin d'une année. La situation est absolument catastrophique sur le plan des conditions de détention. elle a été qualifiée d'apocalyptique par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des conditions de sous-alimentation, des conditions sanitaires absolument déplorables, un manque de nourriture, un manque d'eau, des conditions climatiques extrêmes, c'est-à-dire très très chaud l'été et froid l'hiver, une absence totale de scolarisation pour les enfants et des tensions très très grandes dans ces camps qui sont contrôlés par les forces démocratiques kurdes qui contrôlent encore pour l'instant. Vous savez que là aussi la zone est en pleine fluctuation, en pleine instabilité, comme l'Irak d'ailleurs, tout entier. Et pour l'instant, ce sont encore les forces démocratiques kurdes qui contrôlent. Je dis bien pour l'instant, puisque vous savez qu'il y a à la fois une poussée turque et une poussée syrienne qui tend à restreindre comme peau de chagrin la partie de territoire encore contrôlée par les Kurdes. Donc les conditions sont déplorables, des enfants sont déjà décédés, beaucoup sont malades et sous-alimentés. Il y a de nombreux appels qui ont été lancés, mais qui sont demeurés vains jusqu'à présent, par le commissaire des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, le haut-commissaire pour les droits de l'homme des Nations Unies, toute une série d'organisations internationales et d'associations de défense des droits de l'homme. Alors pour en venir plus précisément encore au sujet, position de la France. Quel est le rapport de la France par rapport au regard de ces ressortissants qui sont français, il faut quand même souligner, c'est pour ça que la France est concernée, qui sont français et qui se trouvent détenus dans ces camps. La position française est une position extrêmement frileuse, pour ne pas dire assez déplorable quand même, sur le plan du respect des droits de l'homme, et guidée, j'y reviendrai sans doute, par le poids de l'opinion publique, une opinion publique dont vous savez très bien qu'elle est extrêmement défavorable à toute mesure prise en faveur, d'une manière ou d'une autre, de ces personnes françaises qui ont quitté notre territoire pour aller combattre, et il est vrai combattre dans des conditions qui sont parfaitement condamnables. Le sujet n'est pas là, car la barbarie a été pleinement présente, et sur ce fond du sujet, sur le caractère répréhensible pénalement, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, des actes commis, il n'y a pas de problème, mais le problème n'est plus là. Maintenant, on se trouve avec des vaincus qui sont détenus. Donc ça rappelle d'autres références sur la situation des prisonniers de guerre, même quand ces prisonniers se sont eux-mêmes livrés à un certain nombre d'atrocités par rapport à la puissance gagnante. Alors, la position française, c'est... essaye de ne pas être totalement insensible, c'est de dire, bon, on essaye de voir la situation d'enfants extrêmement vulnérables. Et vous avez pu voir peut-être dans la presse que, je crois que c'était en mars et juin 2019, puis plus récemment, une vingtaine d'enfants ont en définitive été rapatriés, pour la plupart des enfants en bas âge et des enfants qui étaient orphelins, détenus dans ces camps. Mais est-ce que cela a un sens de distinguer la vulnérabilité de ces enfants, ces 300 enfants à peu près, qui sont tous finalement dans des conditions exactement similaires? Alors, que nous dit-on du côté des autorités françaises pour essayer de justifier ce qui jusqu'à présent n'est rien d'autre qu'un refus de rapatriement? On nous dit que la France objecte qu'elle n'a pas le contrôle de ce territoire, qu'elle n'a pas d'obligation juridique à rapatrier, qu'il faut l'accord quand les mères sont là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, je le disais, orphelins, il y a quelques pères, c'est assez rare, et il y a quand même beaucoup de mères qui sont présentes. Il faut l'accord des mères, et certaines mères, ce qui est vrai, s'opposent au retour de leurs enfants, et en tout cas ne veulent pas s'en séparer, ce qui est parfaitement légitime. On nous dit qu'il s'agit d'une opération très complexe, ce qui est vrai aussi, j'y reviendrai, si l'on rapatrie du jour au lendemain 300 enfants sur le territoire français, nous manquons, en France, de capacité d'accueil pour un tel retour massif. Voilà le résumé des arguments. Aucun de ces arguments ne résiste vraiment à l'examen quand on veut, pas dans la polémique, mais dans l'analyse objective. Sur le plan juridique, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait techniquement un peu compliqué, mais sur le plan juridique, bien évidemment, il y a beaucoup de dispositions à l'échelle internationale qui sont protectrices des droits des enfants. Il y a d'ailleurs une convention, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui impose à tous les États qui ont ratifié, dont la France bien sûr, de remplir un certain nombre d'obligations vis-à-vis des enfants, et quand il s'agit de ses enfants, puisque ce sont des enfants français. Il y a également d'autres dispositions qu'on peut trouver dans des conventions internationales, mais en particulier dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et ces conventions prévoient une sorte d'exception, parce que ce qui vient à l'esprit, c'est légitime, c'est de dire, mais c'est quand même en territoire contrôlé par les Kurdes, en Syrie, on n'a pas le contrôle que l'on peut avoir en France sur notre territoire par rapport à nos enfants qui sont en France. Et il y a toute une discussion juridique que je vous épargne avec les services du Quai d'Orsay en particulier, avec lesquels j'ai beaucoup échangé sur cette question, car on nous dit, nous n'avons pas le contrôle. C'est discutable. Il faut être toujours regarder les choses. Quand je plaide, forcément, je fais pencher la balance du côté pour lequel je plaide. Là, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour essayer d'exposer les arguments et en l'espèce, quand même, de réfuter cette position française. Pourquoi ? Parce que l'extraterritorialité qui peut s'appliquer donc à la nécessité de respecter des droits, et en l'espèce, les droits des enfants, est applicable dès lors qu'il y a soit une possibilité de décision applicable prise par l'État français. Or, la décision de ne pas rapatrier, c'est bien une décision française. Et on peut voir que la France a une capacité décisionnelle vis-à-vis de ses camps. Je vais juste vous citer un exemple. C'est elle qui permet ou pas, et en l'espèce, elle ne permet pas, la plupart du temps, aux familles de se rendre sur place et rencontrer les enfants, par exemple des grands-parents. Et il y a une émission de télévision qui était tout à fait remarquable sur France 5 il y a quelques jours sur ce sujet. Donc il y a un vrai pouvoir, si ce n'est de contrôle, d'influence. Et puis il y a un pouvoir qui va au-delà, qui à travers la coalition internationale à laquelle appartient la France, est un pouvoir vis-à-vis des autorités kurdes. Puisque vous savez qu'il y a des liens extrêmement étroits, économiques, militaires et autres, avec les autorités kurdes. Donc on a cette capacité d'obtenir des autorités kurdes la possibilité de faire revenir les enfants. J'ajoute d'ailleurs que les responsables des camps kurdes, encore aujourd'hui, ne demandent qu'une chose, c'est avoir rapatrié les enfants, car c'est une charge extrêmement lourde pour eux dans un contexte où ils perdent de plus en plus la main. Et on a bien vu récemment que, suite à l'évolution du contexte géopolitique de la région, certains détenus dans ces camps, certaines familles même, ont pu quitter les camps et passer en Turquie. Donc il y a un risque aussi d'évasion, y compris d'éléments dangereux qui sont dans ces camps. Donc l'argument français ne tient pas, il tient d'autant moins qu'on a rapatrié quand même une vingtaine d'enfants. Donc c'est bien qu'on pouvait avoir cette capacité. Lorsqu'on nous dit ensuite que s'il y a beaucoup d'enfants à revenir, il y a des difficultés, on n'a pas les capacités d'accueil, c'est totalement faux. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand les enfants reviennent, ils restent généralement en région parisienne. Alors, il y a tout un mécanisme très au point et remarquablement fait. On a quand même dans notre pays des choses qu'il faut saluer. Et je pense en particulier à l'aide sociale à l'enfance, au juge des enfants, qui s'occupe mais parfaitement des retours. Alors je ne dis pas qu'il faille faire revenir peut-être du jour au lendemain les 300, c'est ce que j'ai plaidé à de nombreuses reprises avec le Quai d'Orsay. Il fallait programmer depuis un an des retours d'une trentaine, et puis, etc. Pas forcément les faire revenir tous en même temps, et puis les disperser sur le territoire français, alors qu'aujourd'hui, ils sont très concentrés en région parisienne et en particulier en Seine-Saint-Denis, puisque quand les avions sont de retour, ils arrivent à Roissy. Et donc, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, dès lors, la justice de Seine-Saint-Denis, de Bobigny est compétente, et de même, dans un premier temps au moins, l'aide sociale à l'enfance. Mais on a toutes ces capacités, donc les enfants sont pris en charge médicalement, sont placés dans des familles s'il le faut, et éventuellement, au bout de quelques mois, confiés à des grands-parents, après toute une série donc, de suivi qui est parfaitement effectué. Voilà, je crois, par rapport à ce que l'on peut opposer. Je terminerai sur cette question des enfants pour aborder directement le sujet suivant. Et il y aura quand même une transition. C'est que par rapport à cette position française qui, quand même, surtout sur les enfants, est très contestable. Les enfants, il faut le souligner, il faut le rappeler. Les enfants qui, pour beaucoup d'entre eux, je le disais, une grande majorité ont moins de 5 ans, on ne peut pas les assimiler aux parents. Admettons que les parents aient été des bourreaux, ce qui est sans doute le cas, hélas, de beaucoup d'entre eux, qu'ils aient commis des actes de barbarie. L'enfant de 3 ans, ce n'est pas un barbare. C'est une victime, une vraie victime, une grande victime, même à cet âge. Donc, il faut l'attirer de cette situation. Il faut le tirer, cet enfant, de cette situation, pour des raisons évidentes, humanitaires, de respect des valeurs fondamentales, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais je dirais aussi pour des raisons, si on veut être un peu plus cynique, après tout, si on veut convaincre l'opinion publique, il faut utiliser tous les arguments, mais pour des raisons sécuritaires. Car si les enfants restent sur cette zone et y grandissent, que risquent-ils de devenir ? Ben, rien d'autre que de futurs djihadistes, combattants, et par conséquent, eux-mêmes, demain, des ennemis de l'Occident, de ce que l'on veut. Donc, quel que soit l'angle sous lequel on aborde cette question, je crois que ce n'est pas raisonnable de continuer à procéder comme le fait la France. Tout dernier point, comme tout avocat, on n'a jamais fini de plaider, on dit c'est le dernier point, il y en a encore un autre que je ne veux pas oublier, c'est qu'évidemment nous demandons que les enfants reviennent en règle générale avec les mères, quand il y a les mères. Et c'est ce qui s'est passé récemment là, pour deux ou trois familles. Et les mères, elles, quand on explique que les enfants, même si elles sont réticentes, parce que certaines d'entre elles sont très investies dans le djihadisme, hein, il y a les femmes qui ont suivi les maris ou les compagnons, mais il y a les femmes qui elles-mêmes sont très impliquées dans ce combat, donc c'est parfois un peu plus difficile, mais la plupart du temps, on arrive à les convaincre. Et lorsqu'il y a ce retour en France de parents, les mères ou parfois des pères, eh bien, évidemment, la justice française les prend en charge. Ils sont presque toujours, s'il y a des charges suffisantes, d'ailleurs beaucoup d'entre eux font l'objet déjà de mandats d'arrêt, sont connus des services, dont se trouveront incarcérés. Donc au niveau de la justice nécessaire, vu la gravité des actes commis, là aussi, il y a du savoir-faire français. Il y a un parquet, je vais y revenir dans un instant, un parquet antiterroriste et un pôle le crime contre l'humanité qui est parfaitement compétent. Et puis ces camps n'ont pas vocation à durer indéfiniment. On voit très bien la volatilité, donc du jour au lendemain, ils peuvent s'ouvrir et on va avoir une dispersion de toutes ces personnes qui sont détenues dans les camps avec un retour à la dangerosité initiale. C'est la meilleure façon de reconstituer d'une manière ou d'une autre les groupes djihadistes. Alors, ensuite, l'autre problématique bon, qui est assez complémentaire de celle que je viens d'aborder, puisqu'elle est liée également à la question des camps dans le nord-est syrien, directement ou indirectement, c'est la situation des Français qui se trouvent poursuivis en Irak par aujourd'hui la justice irakienne. Alors, ce sont la plupart du temps des Français qui étaient à la suite de la chute de Daesh et d'autres groupes terroristes islamistes, qui se sont trouvés détenus justement dans ces camps du nord-est syrien dont je parlais à l'instant, et qui se sont trouvés transférés vers l'Irak, à Bagdad, pour être jugés à Bagdad. Aujourd'hui, il y aurait à peu près, si vous voulez, 60 à 70 ressortissants français qui seraient concernés par cette situation de poursuite et de condamnation à mort, soit prononcée, soit susceptible de l'être. Aujourd'hui, il y a eu 11 condamnations à mort qui ont été prononcées à Bagdad en mai et juin 2019. 11 condamnations à mort. Alors, là aussi, sur ce sujet, il y a un débat extrêmement difficile, pour ne pas dire douloureux, qui revient périodiquement dans les médias. Faut-il ou non exiger le rapatriement de ces ressortissants français et demander à ce qu'ils soient jugés, condamnés et incarcérés en France? Pourquoi? Je ne cache pas que j'appartiens à la Commission consultative des droits de l'homme et j'ai été rapporteur de deux avis auprès de la Commission consultative des droits de l'homme, l'un sur les enfants qui a été adopté donc en septembre 2019 et l'autre qui vient d'être adopté dans des conditions qui ont donné lieu à beaucoup de discussions, mais avec un texte, je crois, qui finalement est équilibré et me semble-t-il assez bien motivé, qui a été adopté mardi dernier, donc c'est extrêmement récent, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est un organisme qui ne donne que des avis au gouvernement français, qui est un organisme accrédité auprès des services du Premier ministre. Pourquoi arrivons-nous à la conclusion de cette nécessité objective de prôner le rapatriement? D'abord, à travers les constats, si vous voulez, pour des raisons principalement liées à des violations massives, incontestables des droits de l'homme. Ces personnes, d'abord, se sont trouvées, je l'indiquais à l'instant, transférées pour la plupart. Il y a une petite marge de personnes françaises qui peuvent être uniquement restées sur le territoire irakien et donc ont accompli les actes reprochés sur le territoire irakien. Mais la plupart étaient en Syrie, et donc ont été transférés de Syrie en Irak. Or, vous savez qu'un des arguments principaux utilisés par les autorités françaises pour dire qu'ils doivent être jugés en Irak, c'est de dire que ces ressortissants français doivent être jugés, je cite M. Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, au plus près du lieu où ils ont commis les crimes ou sur le territoire duquel ils ont commis les crimes. Et il est incontestable en termes de droit pénal que lorsqu'un ressortissant français commet un crime à l'étranger, où que ce soit, quel que soit le pays étranger, vous avez une double compétence. Vous avez la compétence qui est tout à fait logique et légitime de l'État dans lequel le crime a été commis, et vous avez aussi la compétence de l'État dont est ressortissant la personne qui va être poursuivie pour crime. Donc on a, ça ne se discute pas, pas discuté d'ailleurs, on a une double compétence d'emblée, c'est-à-dire compétence de la France, compétence de l'Irak a priori. Sauf que je rappelais qu'il y a eu un transfert qui a été fait de Syrie vers l'Irak. Or, il y a dans toutes les conventions internationales, et en particulier dans la Convention contre la torture ou dans les conventions de Genève sur le droit de la guerre, il y a une interdiction qui est faite de transférer d'un pays vers un autre des personnes détenues pour les voir jugées dans cet autre pays, si dans ce pays, les personnes qui vont être transférées risquent soit la peine de mort, soit torture et mauvais traitement. Soit la peine de mort, soit torture et mauvais traitement. Or, c'est très exactement ce qui se passe, je vais y venir dans un instant, c'est très exactement ce qui se passe pour les ressortissants qui sont jugés à Bagdad, c'est-à-dire pour les 11, par exemple, qui ont été condamnés à mort. Peine de mort, elle a été prononcée, on savait que elle risquait fort, c'était une quasi-certitude d'être prononcée, et d'autre part, il y a eu en amont torture et mauvais traitement. Donc le reproche que l'on peut faire, c'est que la France ne soit pas intervenue alors qu'elle avait une possibilité d'intervention vis-à-vis des Kurdes qui détiennent ces ressortissants français, pour au moins, peut-être n'y serait-elle pas parvenue, mais au moins demander qu'il n'y ait pas ce transfert, parce que ce transfert était contraire, tout simplement. Ou alors on dit que les conventions internationales, c'est du chiffon de papier, et que quand il s'agit de crimes qu'on estime à juste titre être des crimes abominables, ben, la personne n'a plus aucun droit, si vous voulez. Mais ça, c'est le type de raisonnement, je terminerai par là, qui nous conduit vers le pire. L'honneur des démocraties, c'est de ne pas se comporter comme ceux qui pratiquent la barbarie. Voilà donc le premier point, c'est que l'argument français, il tient pas bien, si vous voulez, en disant il faut qu'ils soient jugés là où ils ont commis les crimes, puisque précisément, beaucoup d'entre eux n'ont pas commis les crimes s'ils les ont commis en Irak. Ensuite, le pire, ce sont les deux points suivants. Le premier, c'est que les procès qui se déroulent à Bagdad se déroulent dans les conditions les plus inéquitables qui puissent être. Ce ne sont pas de vrais procès, c'est une parodie de justice. Alors pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On a auditionné beaucoup, dans le cadre de la commission consultative, on a auditionné des avocats, on a auditionné même le Quai d'Orsay, qui avait un représentant via le consulat français à Bagdad aux audiences. Personne ne conteste le caractère totalement inéquitable de ces procès. Pourquoi ? Il n'y a pas d'instruction réelle, il n'y a pas d'enquête réelle. Les personnes détenues avant de comparaître sont victimes toutes de mauvais traitements, voire de tortures avérées. On essaye d'obtenir les aveux, et à part ces procédés bien connus hein, dans des régimes de ce type. Ensuite, les avocats n'ont, pendant la période avant procès, pratiquement pas accès à leurs clients et pas davantage aux dossiers. Il faut ajouter que de trouver des avocats qui défendent ces personnes, c'est très difficile, parce qu'on est dans un contexte insécuritaire total et que les étrangers qui sont venus faire le djihad en Irak sont pas quand même considérés, on peut le comprendre, avec beaucoup de faveur par la population irakienne, et on reste dans un climat d'affrontement et de violence que vous connaissez. Donc même d'obtenir des défenseurs, ce n'est pas évident. Ensuite, on arrive au procès, ça a été suffisamment décrit. Le procès, c'est au maximum 20 minutes, une demi-heure, paraît-il, dans une des affaires, on va dire même 30 minutes. 30 minutes pour juger, pour donc auditionner la personne qui comparaît, pour entendre son avocat qui a à peu près 5 minutes pour s'exprimer, avec les difficultés, bien entendu, que vous imaginez de compréhension en termes de langue, hein, et puis de compréhension par rapport à ce qui se passe avec le tribunal. Donc aucun exercice réel des droits de la défense, des droits du prévenu, qui va se trouver automatiquement condamné à mort. Pourquoi automatiquement ? Parce que le code pénal irakien est ainsi fait que le simple fait d'avoir adhéré à l'État islamique entraîne la peine de mort. C'est dans le code, hein, c'est l'article du code, c'est le simple fait d'une adhésion à l'État islamique. Alors, on ne juge pas si la personne qui est là, on n'essaye pas d'apprécier si elle a été à un haut niveau ou à un faible niveau de responsabilité dans les atrocités commises. On n'examine même pas si elle a commis la moindre atrocité. Il suffit qu'elle ait adhéré à l'État islamique, ce qui est généralement le cas, ça c'est pas la question, mais pour avoir cette peine qui est quand même la peine capitale, la peine de mort. Donc, c'est une raison quand même pour dire qu'on ne peut pas se contenter. Quand M. Le Drian ose dire un jour à la télévision que l'Irak est un État souverain, ce qui est vrai, et que les procès dans cet État se déroulent dans des conditions équitables, c'est quand même choquant. Alors, le point complémentaire, c'est évidemment la peine de mort. La peine de mort, parce que la France, vous savez, le combat, tout à l'heure on rappelait un certain nombre de dates des 50 dernières années, 1981 seulement, abolition de la peine de mort. C'est pas si vieux. Hein. On s'est battu, beaucoup battu, ça n'a pas été facile, mais le combat a été gagné. Espérons qu'il n'y aura pas de remise en cause, malgré les vents mauvais qui parfois circulent ces temps-ci. Mais en tout cas, pour l'instant, la France a aboli la peine de mort, comme tous les pays qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Et non seulement elle l'a aboli, mais il faut dire que dans les enceintes internationales, la France intervient pour, en faveur de l'abolition de la peine de mort dans un maximum d'États, ce qui est bien. Sauf que là, et ce n'est pas la première fois entre le discours et les actes, on est quand même complètement à contre-courant. Parce que la France accepte, sans, je n'ai pas vu qu'on se révolte hein, au niveau des plus hautes autorités françaises, accepte donc se prononcer des peines de mort en disant ben, « puisqu'elle est prévue en Irak par le code pénal irakien, ce n'est jamais que l'application de la loi irakienne ». C'est quand même une façon, là aussi, qui ne peut pas être acceptée, alors que la France, à plusieurs reprises, a dit qu'elle intervenait pour essayer d'améliorer, justement, le code pénal irakien, la façon de procéder de la justice irakienne. Mais où en est-on ? Et voilà, donc je crois que je pas la peine de développer davantage ce point, tant il paraît quand même assez essentiel. Je dirais qu'en plus, ça décrédibilise notre discours, lorsqu'ensuite on intervient, je parle de la France, on intervient pour dire, bien sûr, nous sommes contre la peine de mort, alors qu'on a délégué, qu'on a finalement, par procuration, donné à un autre État la possibilité de juger et de condamner à mort nos propres ressortissants, qui sont des ressortissants français. Tout dernier point qui est assez choquant dans tout ce processus, c'est que... il y a une obligation, comme vous savez, quand un Français est poursuivi dans un État étranger pour avoir accompli des délits ou des crimes, il y a un grand principe qui est celui de la protection consulaire. Et c'est là-dessus qu'essaye un peu de s'arc-bouter le Quai d'Orsay en particulier, qui dit, bah, écoutez, nous on fait ce qu'on peut, il y a un consulat qui est à Bagdad, un consulat français, qui, et c'est vrai, on ne va pas dire le contraire, se trouve dans une situation sécuritaire lui-même difficile, qui fait ce qu'il peut, mais on ne dira pas trop le contraire, même s'il y a quand même des bémols, et qui donc a envoyé, a délégué une ou deux personnes qui ont assisté à chacune des audiences qui ont donné lieu au prononcé des condamnations à mort. Force est d'observer que ça n'a pas servi à grand-chose. Bien. Ensuite, deuxième point pour la protection consulaire, jusqu'en juillet 2019, il est vrai qu'il y a eu des visites du consulat français pour les détenus, puisqu'ils sont détenus, maintenant ils n'ont pas été exécutés jusqu'à présent. Bien, mais sans qu'on ait aucune garantie qu'ils ne le seront pas. Ils ont fait appel, c'est sans doute la raison pour laquelle, de toute façon, ils ne le sont pas encore. Toujours est-il qu'il y a eu des visites consulaires jusqu'au mois de juillet 2019. Et puis, il n'y a plus de visites consulaires jusqu'au 17 décembre 2019. Il a fallu vraiment beaucoup de manifestations des familles de ces personnes qui sont condamnées à mort auprès des autorités françaises pour que les autorités françaises là fassent pression sur les autorités irakiennes afin de permettre aux membres du consulat français d'aller dans les prisons où ils sont actuellement détenus. Alors ce qu'on sait, c'est que ce sont des conditions de détention épouvantable, bien pire que celles auxquelles ils étaient soumis avant de comparaître pour leur jugement. Donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui montrent qu'on n'est pas dans le droit, on est hors du droit. Alors là aussi, pourquoi arrive-t-on, ou peut-on arriver, j'entends bien que les opinions, c'est certainement pas l'opinion de la majorité des Français, qui à 85%, je crois, sont contre cet avis-là, mais pourquoi arrive-t-on à l'avis selon lequel il faut préconiser, là aussi, un rapatriement des ressortissants français pour qu'ils soient jugés en France ? Alors évidemment, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, on ne peut pas comme ça rester les bras croisés devant de telles violations des droits de l'homme. Mais en plus, on a une compétence en France pour juger. On a une compétence, puisque ce sont des crimes qui ont été commis, ou qui sont, tant qu'il n'y a pas de jugement, on ne peut pas affirmer que ce sont des criminels, mais ce sont des crimes pour lesquels ces personnes sont poursuivies, qui ressortent de la justice française. Et la justice française, elle ne demande qu'une chose, que ce soit les juges d'instruction ou les procureurs de ce qu'on appelle maintenant le PNAT, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste, ils sont demandeurs de ce retour pour voir juger ces ressortissants français. Pourquoi demandeurs ? Parce que beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire tous, font l'objet de mandats de poursuite et d'arrêt de la part de la justice française. Ils sont très très bien ciblés par les services, par la justice. Et vous savez à quel point il y a une porosité entre le combat djihadiste dans la zone syro-irakienne et ce qui se passe sur notre territoire. Beaucoup de ces personnes, on les retrouve dans les attentats qui ont eu lieu en France et pour la Belgique, en Belgique et pour l'Allemagne, etc. Donc la justice française est extrêmement intéressée à pouvoir les entendre. Et comme par ailleurs, il faut, c'est ce que j'ai oublié de dire, il faut souligner que comme pour les Kurdes qui souhaiteraient que les camps soient vidés pour des retours dans les pays d'origine des ressortissants détenus, de la même façon, la justice irakienne serait ravie d'être dessaisie, d'avoir à juger les ressortissants étrangers et pas seulement français. Cette justice a déjà suffisamment à faire pour juger les djihadistes irakiens qui ont commis les actes de l'État islamique sur le territoire irakien sans se charger de juger les étrangers. D'autant plus que les magistrats irakiens sont eux-mêmes soumis à des pressions que vous pouvez deviner dans un climat de totale insécurité. Donc même de ce côté-là, il n'y a pas d'obstacle. En tout cas, la justice française, elle est demanderesse et elle est compétente. Et les compétentes, ce qui présente des intérêts multiples. Intérêt d'abord parce que ça permettra de compléter des enquêtes ou des informations qui sont actuellement au point mort parce qu'on ne peut pas entendre ces personnes qui sont liées donc, à un certain nombre d'affaires en cours, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir qu'en Irak, je le rappelais tout à l'heure, on ne peut poursuivre que sur un fondement bien déterminé, qui est celui du code pénal irakien. Or, le code pénal irakien, c'est uniquement l'antiterrorisme. L'antiterrorisme avec des infractions qui sont extrêmement larges, qui ne respectent en rien les individualisations des peines ou le sacro-saint principe de la légalité des délits et des peines. Bien. Alors qu'en France... on va bien au-delà. D'abord, ce sont des, même si parfois, sur le plan de l'antiterrorisme, l'incrimination est relativement large, mais pas quand même à l'irakienne. Et puis surtout, en France, on peut poursuivre sur un autre fondement, qui est celui du crime contre l'humanité. Or, si vous réfléchissez un instant, si on analyse ce qui s'est passé dans le cadre de l'État islamique ou dans le cadre d'actions menées par des groupes djihadistes autres, mais surtout l'État islamique. L'État islamique, c'est un État qui avait ses formules, hein, ses lois. Par exemple, il se trouve que je suis dans des dossiers qui concernent les femmes yézidis. Eh bien, vis-à-vis des femmes yézidis qui ont été traitées d'une manière, vous direz que ça rentre dans le registre, hélas, large, multiple, des crimes internationaux qui remplissent d'effroi quand vous examinez ce qui peut se passer, puisque à chaque fois on se dit, mais comment les êtres humains peuvent-ils faire subir à d'autres êtres humains des actes aussi abominables ? C'est hélas pas nouveau. Mais là, par exemple, sur les yézidis, il y a eu ces actes. Mais ce qu'on a pu apprendre en menant des missions d'enquête, c'est qu'il y avait une... C'est pas Mein Kampf, mais c'était du même ordre. C'était des textes qui préconisaient aux membres de l'État islamique de pratiquer comme ils l'ont fait, c'est-à-dire de tuer les hommes, de violer les femmes, de les mettre enceintes, de conserver les enfants pour les recruter, etc. Enfin, des choses qui étaient écrites et programmées. Alors, est-ce que ça ressort du terrorisme ou est-ce que ça ne ressort pas plutôt du crime contre l'humanité ? Et c'est pourquoi, si ces personnes se trouvaient jugées en France, surtout que maintenant, le parquet national antiterroriste, malgré le titre qui pourrait prêter à confusion, ce parquet a compétence à la fois pour le terrorisme et pour les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. Donc ça permettrait d'élargir le débat, ça permettrait d'avoir évidemment des audiences beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus élargies, ça permettrait d'avoir des témoins et ça permettrait d'avoir, ce qui n'est jamais le cas en Irak, vous vous en doutez, dans des procès qui durent 20 minutes, des victimes qui seraient présentes ou des familles de victimes. Alors certains ou certaines disent, mais comment ça s'est passé? Il n'y aura pas de victimes. Comment vous? Si, on a des victimes. Et moi, j'ai quelques procédures qui sont en train d'avancer, dont une peut-être même aujourd'hui avec quelqu'un qui risque de se faire arrêter dans le sud de la France, un djihadiste qui était, enfin, d'un groupe djihadiste syrien. Eh bien, d'une part, vous pouvez avoir des gens qui voyagent, qui sont eux-mêmes coupables de, ou présumés coupables de ces exactions, mais surtout des victimes qui ont quitté, par exemple, les femmes yézidis, certaines victimes de viol, ont quitté la zone et sont partis d'abord en Turquie, puis dans des pays européens, voire au Canada, voire en Australie. Donc ces personnes, ou des familles de victimes, quand les victimes sont décédées, peuvent très très bien, dans le cadre de procès en France, venir témoigner. On a eu des procès sur le génocide au Rwanda, où là aussi tout n'est pas facile, mais on y parvient. Donc ça permet vraiment d'élargir. Ensuite, ça, je crois qu'on remplit mieux, bien sûr, les conditions du respect du droit au procès équitable et puis du respect tout simplement de nos valeurs. Ensuite, on va nous dire, vous êtes, comme souvent, vous êtes des droits de l'hommistes, prenez ce discours, c'est naïf, vous êtes angélique, et puis... pourquoi se donner tant de mal, finalement? Bon, ils sont là-bas, laissons-les, on a nous aussi, nos prisons sont surpeuplées, nos juges sont surchargés. Bien. Sauf que, outre le respect des valeurs, là aussi, c'est comme pour les enfants. Je pense qu'en termes de sécurité, c'est beaucoup plus dangereux de les laisser en Irak que de les faire revenir en France, surtout qu'ils ne sont pas très nombreux, je parlais de 70-80 personnes, beaucoup plus dangereux de les laisser là-bas. Tout simplement parce qu'il y a, je l'ai déjà évoqué, une volatilité dans ce pays totale, une absence de contrôle, un pouvoir qui ne contrôle plus, qui est, vous le savez, extrêmement controversé. Donc rien ne nous dit que du jour au lendemain, les prisonniers, ceux qui sont prisonniers actuellement, même condamnés à mort, vont peut-être s'évader, les prisons seront peut-être ouvertes et ils reprendront le combat, et je dirais surmotivés par ce qu'ils ont vécu et l'abandon dans lequel on les a laissés. Et puis ceux qui pour l'instant ne sont pas encore arrêtés ou qui restent dans des camps pour l'instant du nord-est syrien passeront dans une situation similaire s'ils se retrouvent dans la nature. Alors que s'ils sont de retour en France, eh bien ils seront dans des conditions où ils seront incarcérés, jugés, condamnés à des peines qui sont très lourdes. Moi, j'ai été, je ne le fais plus, mais j'ai été l'avocat pendant un certain temps, j'ai défendu des personnes qui étaient poursuivies pour actes de terrorisme. Les sanctions sont très lourdes et plus lourdes encore aujourd'hui depuis 2015. Donc on ne peut pas dire que c'est faire preuve d'indulgence ou de clémence. Alors après, on nous dit, mais ils sortent bien un jour, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait une difficulté avec tel ou tel le jour où il ressort. Mais ça, c'est le propre de tous les condamnés, qu'ils soient de droit commun ou qu'ils soient des personnes qui ont tué. Dès lors que vous admettez qu'on ne les condamne pas à mort, c'est fini. Un jour, la plupart du temps, ils ressortent. Est-ce qu'il subsiste un petit degré de dangerosité? Il arrive qu'il y ait une récidive, mais c'est quand même extrêmement rare. Alors, Qu'est-ce qu'on privilégie finalement? Est-ce qu'on dit on coupe les têtes, c'est plus simple, ou est-ce qu'on dit on a quand même un espoir, c'est tout ce qui fonde nos valeurs démocratiques, on a un espoir, on a la sanction, elle doit être proportionnée à l'acte commis, à la gravité de l'acte commis, mais on a des espoirs de réinsertion, de déradicalisation, comme on le dit aujourd'hui, faute de meilleurs termes, parce que celui-là n'est pas excellent, vis-à-vis de ces terroristes. Alors, voilà, bon, je pense avoir résumé quelques-uns des aspects de toutes ces questions qui en soulèvent beaucoup d'autres. J'ai certainement pas été exhaustif. En conclusion, Il y a une approche multiple sur ce sujet. Une approche qui rentre vraiment, je dirais, pleinement dans le cadre du séminaire qui est le vôtre, c'est-à-dire une approche à travers un aspect limité mais très important du rapport France, monde arabe, monde musulman, même si vous avez des Français purement français, qui, c'est pas seulement des gens du monde arabe. En revanche, ce sont des musulmans. Donc on est en plein dans votre sujet, parce que de toute façon, c'est arabe et musulman. Donc on est dans ce sujet aujourd'hui. Est-ce que le comportement qui est celui de la France, mais d'autres pays aussi, parce qu'il faut dire que dans l'ensemble, moi je connais assez bien le cas belge, moins les cas allemands et anglais, mais je connais bien le cas belge, les positions sont assez similaires de la part des gouvernements. Alors, est-ce que dans cette approche, il y a la résurgence de quelque chose de négatif par rapport à ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve, et sans doute est-ce le cas, la poursuite d'un passé douloureux, conflictuel, etc. Ça, c'est une première interrogation. Après, le deuxième point, plus large, c'est qu'on est au cœur vraiment, comment dire, d'un combat, d'un débat qui a pris une ampleur considérable, on va dire, depuis 2001. Parce qu'il y a quand même eu un tournant, même si, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses avant. Je ne suis pas en train de dire que tout vient des attentats du 11 septembre. Mais beaucoup de dérives de nos démocraties sont consécutives quand même à ce qui s'est passé après le 11 septembre. On le voit très très bien avec quand on pense par exemple que la Grande-Bretagne, qui était le pays de l'habeas corpus, très rapidement après le 11 septembre 2001, a adopté des dispositions qui permettaient d'une manière purement administrative, de conserver des gens en détention pendant, je crois que c'est 45 jours, enfin des choses qui étaient inimaginables. Ne parlons pas des États-Unis bien sûr, avec toutes les mesures qui ont été prises, avec Guantanamo qui symbolise à l'extrême ces dérives. Donc, on voit très bien que, sous prétexte de lutte antiterroriste, sous prétexte de préserver la sécurité des populations, on a abandonné ce qui constitue le socle de nos valeurs, c'est-à-dire le respect d'un certain nombre de principes. On ne torture pas, on ne pratique pas de mauvais traitements, on n'applique pas la peine de mort. Les enfants ont un intérêt supérieur à préserver. Toutes ces notions qui paraissaient mais complètement acquises, je pense. Enfin, je sais pas, c'était avant 2000 ou peut-être un peu déjà avant, mais on pensait pas qu'il pourrait y avoir même débat là-dessus. Ben aujourd'hui, non seulement il y a débat, mais il y a pire que débat, c'est qu'il y a même presque non débat. Moi, ce qui me frappe énormément, c'est que plus on porte atteinte c'est même pas des libertés, ça, c'est vraiment des droits fondamentaux élémentaires. On y porte atteinte et il y a peu de réactions. Les réactions sont de moins en moins vives. Et ceux qui réagissent, défenseurs des droits de l'homme, avocats, société civile, ce qu'on peut appeler la presse, quand même, certaines des journalistes, des intellectuels, des enseignants, mais ça devient de plus en plus circonscrit, mais ce qu'il faut, c'est une réaction populaire pour tout ça. Alors, c'est peut-être à nous aussi d'avoir plus de savoir-faire. Peut-être que là aussi, comme pour beaucoup d'autres crises du temps présent, on n'a pas su faire œuvre d'une pédagogie suffisante. Mais je crois qu'on est au cœur d'un débat fondamental. Et en guise de conclusion, pour revenir à ce sujet, ou pour terminer sur ce sujet, au-delà de ce qui constitue quand même notre honneur, c'est-à-dire et ce qui peut servir de modèle, je crois qu'on est complètement contre-productif. Parce que si l'objectif, c'est de protéger nos sociétés du terrorisme, je crois qu'on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire, mais vraiment l'inverse. D'ailleurs, on voit très bien que plus on prend de mesures répressives, plus on s'affranchit des règles de droit et plus on est dans des situations de conflit. Monsieur Trump a beau bander les muscles comme il sait le faire, il va finir par mettre le monde à feu et à sang. Et on évoquait tout à l'heure la Palestine. Je pense que si on continue dans cette voie, alors que le Proche-Orient est déjà dans des situations explosives, alors là, on va vraiment être dans une situation explosive qui ne se limitera évidemment pas au Proche-Orient, tant cela a des répercussions partout dans le monde, et en particulier dans nos pays occidentaux. Donc, loin d'éradiquer le terrorisme, je crois qu'on est en train de le favoriser par ces violations, et en particulier, pour revenir au sujet, en laissant, en abandonnant les ressortissants français à leur sort, que ce soit les enfants, les familles dans les camps du nord-est syrien, ou les combattants, il faut les qualifier comme tels, les combattants partis faire le djihad, qui, je le dis tout de suite, même à titre personnel, n'attire nullement ma sympathie. Ce n'est pas du tout la question. Le problème, c'est que les criminels attirent rarement la sympathie, enfin, sauf exception, bien. Sauf quand ils sont condamnés à tort ou poursuivis à tort. Mais sinon, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir si nous jugeons autrement que de façon expéditive, comme savent le faire les djihadistes dans leurs tribunaux appliquant la charia et autres règles du même type. Voilà.
Merci, maître.